Onda Azzurra. Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, Kala, good evening, une émission comme de coutume placée sous le signe de la beauté, puisqu'autour de cette table nous avons Fred. Bonsoir Fred.
Bonsoir Romain.
Quelqu'un qui sent bon le 109, Rodolphe.
Bonsoir.
22 ans, resplendissant.
Toutes ses dents.
Pour le moment, oui.
Et des yeux qui regardent droit devant eux, qui n'ont pas peur de rien. Des yeux qui ne rougissent pas.
C'est vrai.
Il vient de Nantes.
Nantais.
Ouais, c'est ça. De Nantes. Mais Toulousain pour les études.
Et Toulousain pour les études. Rodolphe qui nous parlera ce soir de Royal de Luxe tout de suite. Et un peu plus tard, ce sera un débat animé autour de MeToo. Et Yvan à la technique.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Yvan.
Et à toutes. Voilà un débat. On va faire un débat après.
Et tout de suite, on commence en musique avec un choix, Yvan.
Ouais, on va commencer en
juste. Que tu vas nous justifier.
Oui, parce qu'on va parler des films français. Si ça démarre. Hein.
En musique.
En musique. On va écouter un groupe américain avec des textes français.
C'était lire.
Bah on écoute. Hein.
C'est ça que je veux dire.
films américains sont basés sur des actions, sur des histoires.
Petite chose privée qu'on doit dire en public, en gros.
Voilà, c'est ça. T'aimes bien quand je te fais tout ça.
Mais il va absolument savoir quel est mon dessin
C'est
qui, Yvan? C'est qui ces gens-là?
C'est un groupe américain des années 80, la fin des années 80. Butthole Surfers.
Butthole Surfers, donc voilà. Une introduction douloureuse à cette émission.
Très douloureuse. En fait, c'est sympa, ils parlaient. C'est des extraits de films français. Donc, s'il y a des gens qui connaissent les films avec ces extraits, vous pouvez nous appeler. Le numéro de téléphone de la radio, c'est le 815-8100. Mais. Toi, t'as reconnu des extraits
J'ai pas bien écouté. J'ai fixé mon attention sur le beat que j'ai trouvé lancinant et très bien pour une fin d'après-midi.
Bien, bien. Ouais. Alors, Rodolphe, tu veux nous parler de...
Donc, de Royal Deluxe. Donc, c'est pas forcément connu, apparemment. Donc, vu que c'est peu de personnes à qui j'en ai parlé.
J'en ai entendu parler.
Moi, j'en ai entendu la première fois parler jeudi dernier. Par en dessous. Je sais.
Non, mais peut-être qu'ils se sont produits plus souvent en France que.
Ouais. Ils se sont quand même produits en Belgique, mais c'est plus souvent en France. Donc, c'est une compagnie de théâtre de rue qui a été fondée en 1979. Donc, maintenant, de nos jours, ils sont basés sur Nantes, mais ils ont été créés à Aix-en-Provence. Ils sont passés aussi par Toulouse. Ils sont sur Nantes depuis 1989. Donc ils ont fait plusieurs spectacles déjà, ils en font à Nantes, ils en font aussi un peu partout dans la France et ils en font aussi à travers le monde. Par exemple, ils ont déjà été au Canada, en Allemagne, au Mexique et d'autres pays. Par exemple, cet hiver pour la Nouvelle-Zélande et cet été pour l'Europe, ils vont aller faire un spectacle aux Pays-Bas. Donc voilà. Moi, je les ai surtout connus pour une saga, on va dire, de spectacle, qui est la saga des géants. Donc ça, c'est un spectacle de marionnettes géantes qui font. Donc quand je dis marionnettes géantes, c'est par exemple pour les plus petites, elles font 6 mètres de haut.
Donc c'est comme les géants belges là, qui se baladent dans la rue ou ça...
C'est ça, ils sont nantais. Non, mais, et du coup avec toute la structure, donc souvent la structure est un peu plus haute que le géant et donc pour la, il y a plusieurs poupées si on peut dire comme ça, il y a la petite fille, la grand-mère, le grand géant qui va, il y a aussi le scaphandrier qui va avec le grand géant et puis il y a eu des animaux comme une girafe, une araignée, dragon et donc au fur et à mesure la première marionnette qui a été créée c'était en 1993, c'était le grand géant, elle faisait 9 mètres 50 de haut par exemple, elle faisait 2 tonnes aussi. Donc voilà, ils arrivent quand même à bouger ça. Et puis quand ils les déplacent, ça fait quand même... Ils arrivent bien à les déplacer, ça fait vraiment... C'est très joli à voir.
Donc ils tournent sur des chars.
C'est ça, il y a un peu derrière, il y a un char avec comme un bras qui s'élève un peu au-dessus. Puis après, il y a tous les fils qui partent. Et par exemple, pour lever la jambe, enfin pour les faire bouger, des fois, c'est quelqu'un qui tient un fil qui se laisse tomber pour lever la jambe ou le bras. Ouais.
Donc c'est beaucoup plus sophistiqué que les géants belges, quoi.
Ah, peut-être.
Parce que les géants belges, c'est juste une structure. Et
ouais,
tout ce
parce que là, non, là, c'est vraiment des marionnettes où du coup, ils peuvent bouger. Et même, par exemple, pour la sophistication, il y a la grand-mère qui a été faite en 2014. Elle peut parler. Ils la font parler. Ou il y a autrement la girafe qui a été faite en 2000. Donc qui fait 12 mètres de haut pour préciser. Ils arrivent à la faire courir. Ils peuvent la faire avancer à 10 km par heure. Donc sachant que c'est quand même 25 tonnes, donc ils arrivent quand même à faire avancer la chose assez vite. Et donc les spectacles, souvent, donc il y a à chaque fois une certaine histoire, et souvent ça se déroule dans la ville. Ils suivent un parcours dans la ville, tout en racontant l'histoire, et ainsi de suite. Donc après, selon les thèmes, ils allaient plus ou moins dans un pays. Par exemple, il y a une année avec un dragon. Il me semble qu'ils sont allés le faire en Chine. Il y a une année où c'était un peu plus. Il y avait une année, ils ont fait aussi avec l'Afrique, où du coup ils avaient dû y aller aussi. Enfin, c'est vraiment. Je trouve ça très intéressant. Et donc, pareil, si jamais vous voulez pouvoir voir une de ces marionnettes, il y a l'éléphant. Pour y aller, faut aller voir à Nantes. Par contre, et à l'année, il y a l'éléphant qui est à Nantes et qui fait des balades plusieurs fois par jour. Le mieux, c'est l'été, souvent, parce que dans Nantes, il y a énormément de choses, mais du coup, il y a aussi l'éléphant. On peut voir, il fait des tours sur l'île de Nantes. Il fait plusieurs tours par jour et on peut monter dedans.
Et peut-être qu'on peut voir des extraits sur YouTube.
Oui, sur YouTube, il y a aussi des vidéos. On peut voir aussi des vidéos, des extraits des spectacles.
Donc, si on tape
Royal de Luxe.
Royal de Luxe, voilà.
Voilà, Renaud Creusot. Royal de Luxe Nantes, pour être sûr de bien tomber sur.
Sur le vrai Royal de Luxe.
C'est ça.
Parce qu'il y a plusieurs imposteurs.
Ils font une nouvelle marionnette tous les combien d'années, alors, à peu près?
Ça, je sais pas trop. Après, ils font pas non plus que. Il me semble qu'ils font pas que les spectacles de marionnettes géantes. Donc, si jamais ils ont un projet de faire un autre spectacle, il y aura peut-être plus de temps avant qu'une autre soit créée. Voilà.
Très bien, très bien. Donc, jetez un œil sur.
Ouais, c'est ça.
Si vous êtes en France, allez à Nantes.
Ouais, c'est ça. C'est plutôt sympa. Je suis jamais monté dedans.
Ouais.
Mais à regarder passer l'éléphant, c'est très sympa. Et puis l'été, c'est un peu plus. C'est un peu plus mieux parce que
il arrose.
Il y a du soleil. Même à Nantes, il y a du soleil et il arrose avec sa trompe.
Okay.
Un peu les gens qui les passants.
Donc ils doivent tourner dans tous les festivals en France.
Je pense pas parce que. Enfin, je pense que c'est pas forcément tous les festivals parce qu'à mon avis.
C'est à toi d'arriver à 10 à l'heure. Tu vois.
C'est ça. Ouais. À déplacer toutes les manettes, ça va être un sacré.
22 tonnes ou 15 tonnes, je sais plus.
Voilà. Non, mais il y a 25 tonnes la girafe, t'as 2 tonnes le géant. L'éléphant il bouge pas trop, mais lui il fait 42 tonnes par exemple. Mais voilà.
Sacré logistique.
T'as le géant qui fait quand même à peu près, enfin quasiment 10 mètres. Et la structure pour le bouger, elle fait 14 mètres de haut. Donc ça fait quand même une. Pas mal de choses à déplacer et à réinstaller à chaque fois.
Ça va être impressionnant quand même.
Ouais. Hein ouais, ouais.
Donc puis, tu les as vus plusieurs fois.
Pas tout le temps. Le problème, c'est qu'ils ont fait plein de spectacles à Nantes, mais à chaque fois, c'est ultra bondé. Genre, faut y arriver dès le matin pour l'après-midi. Du coup, souvent, j'ai souvent vu l'éléphant, mais pas spécialement les spectacles un peu plus développés. J'ai vu où je voyais, par exemple, parce que souvent, un peu avant et un peu après, les décors. Il restait dans Nantes parce que le temps de les démonter. Du coup, je voyais au moins les décors ou des fois les marionnettes qui bougeaient pas. Mais et du coup, c'est toujours très intéressant parce que pareil, ils les font s'asseoir, ils font faire pas mal de choses.
Voilà. Très bien. Et tu faisais quoi à Nantes, étudiant?
Non, mes parents habitent à Nantes, enfin une petite ville à côté. Mmh. Mais du coup, je suis né à Nantes, j'ai grandi à Nantes et après pour mes études, je suis allé à Toulouse.
Donc c'est là que se résolvent pas mal de choses, dans, parce qu'on se demande en vous écoutant quelle est la genèse, quelles sont les strates qui ont fait votre accent. On pense, des expériences un peu contradictoires qui sont cristallisées dans ce qu'est votre voix aujourd'hui. Voilà. Mais on en reparle tout de suite parce que là je vais répondre à Yvan qui a passé un groupe américain qui chante en français, enfin qui a des paroles françaises, et je vais lui donner la réplique en diffusant une chanson d'un groupe français qui chante en anglais. C'est Phoenix. Il y a un petit moment d'absence au début. Tu le sens qui monte, ce grésillement dans tes oreilles? Non, c'est ça va venir, ça va venir. Ah, j'ai mal calé mon truc, mais ça arrive au meilleur d'entre
vous. On va monter le son un petit peu. Voilà.
Ah zut.
C'est le fil.
Ah c'est le fil.
On a un problème de fil.
Bon, on va
ils n'ont pas les problèmes de fil comme ça à Nantes.
Je crois pas. Hein.
T'as été visiter des radios à Nantes?
Non, j'avais des amis qui allaient dans des radios, mais je leur ai jamais vraiment trop parlé par rapport à ce qu'ils font dans la radio, mais ils me parlaient pas de problème de fil en tout cas quand on pouvait en parler.
Et combien d'habitants à Nantes à peu près?
Ouais, ben
beaucoup.
C'est une bonne question. Et il commence à une heure, un sacré paquet.
Ouais.
Ouais, ça commence à être assez grand quand même. Et puis avec tout ce qu'il y a, ça s'agrandit pas mal en tout cas. Il y a pas mal de constructions.
C'est pas la capitale. Ah non, c'est pas la capitale de la Bretagne.
Non. Ben on sait même pas si c'est dans la Bretagne.
C'est pas en Bretagne, Nantes?
On n'est pas sûr, c'est toujours le même, même problème. Ah, il y en a qui disent oui, d'autres non.
Bon, on écoute voilà. Phoenix. Superior, true like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on a tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better.
lean on my friends. They help me going through hard times. But I'm feeling enemy. I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, can try, can try, can try. Knowing those hard times I went through. If I can escape my mystical stormy days and over. Dreading out that thing that I better cost. I watched all my castles fall. They were made of dust after all. Someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. God gives the night cold as the ground. And the sickle is isolated in my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a neck can be a star. Feels like a bubble, you're still out. I'm losing my battles on the side road. Tell me please, tell me please.
Souvent la Nouvelle-Zélande comme la Suisse du Pacifique Sud, mais elle a aussi des points communs avec la Bretagne, pour ce qui est du temps en tout cas, un temps qui ne fait ni chaud ni froid, avec un petit crachin légèrement hypocrite.
Le crachin, je ne sais pas, tout à fait d'accord, ce n'est pas du crachin que j'appelle en Nouvelle-Zélande. Là.
En Nouvelle-Zélande, tu es vachement, t'es bien trempé.
Oui,
comme non,
ce que j'ai pu voir, c'est pas du crachin.
C'est une vraie drache, comme on dit chez moi.
Ouais, ouais.
C'est un temps, on ne sait pas à quoi s'en tenir.
Il peut changer, ça c'est sûr. Mais
c'est 4 saisons en un jour, disent-ils ici.
Ouais. Mmh. Bah, en Bretagne, il n'y a pas 4 saisons. Il y a beaucoup de pluie, entrecoupée de pas de pluie. Mais ce n'est pas les saisons qui changent, c'est toujours la même.
Tu peux quand même passer 15 jours sous la pluie en Bretagne.
Hein. Ouais. Mais y a-t-il deux saisons comme en Nouvelle-Zélande? C'est-à-dire un printemps de 3-4 semaines et le reste un automne qui n'en finit pas.
Oui, ça peut être ça. Ou ça peut être deux saisons, une qui pluie où il fait froid, une qui, où il y a de la pluie, mais il fait chaud.
Mais je disais, hors antenne, on était en train de discuter que les Bretons, les vrais Bretons, disaient qu'il faisait tout le temps beau en Bretagne.
Hein? Ah, c'est pas moi qui ai dit ça.
C'est moi qui dis ça.
Ah, c'est toi qui dis ça. C'est notre Belge qui a dit ça.
La Belge qui parle d'autorité.
Voilà. Donc,
non, mais les Bretons que je connais ici me disent qu'en Bretagne, il fait beau comme ici et qu'il pleut très très peu. Alors, ah bon. C'est pas mon expérience personnelle de la Bretagne, mais je n'y suis jamais allée que 3 fois. Donc,
Après, il fait quand même. Enfin, souvent, quand on parle de la Bretagne, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Il fait quand même beau de temps en temps. Après. C'est vrai que sur la pointe vers Brest, il fait un peu moins souvent beau, il y a beaucoup de pluie. En plus, il y a pas mal de vent.
Ouais, il doit y avoir de bonnes tempêtes. Hein.
Ouais, hein? Ça doit être sympa. J'y suis jamais vraiment allé à Brest, mais c'est sympa, j'ai un ami qui était.
En tout cas, les Bretons ont la réputation d'être très voyageurs.
Je les comprends.
Hein? Non? C'est vrai que moi, en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré pas mal de Français. Il y avait pas mal de Français qui étaient bretons, en fait.
C'est comme les Bulgares, les Slovènes, quoi. Ça s'appelle l'immigration de masse, quoi. C'est la déprime à la maison.
Les Bretons, c'est des... Ils sont branchés bateau aussi, non?
Ouais, hein? Oui, beaucoup, ouais.
Ouais.
Donc il y a du cousinage entre la Bretagne et la Nouvelle-Zélande.
Oui, le temps
peut... Vous n'êtes pas complètement dépaysé ici-bas.
Tous les Néo-Zélandais connaissent les Glénans, qui est quand même en Bretagne. C'est quand même... le fleuron de la navigation,
ils connaissent, parce que
de la voile.
Je connais pas.
Moi non plus. Hein.
tu peux nous expliquer.
Non, elle aime bien en parler, elle connaît absolument rien, elle est plus à l'aise pour dire n'importe quoi.
Mais non, l'école des Glénans, c'est l'école de voile
j'ai entendu le...
française.
D'accord. D'accord.
Qui organise des stages, si tu veux apprendre de la voile.
Ça, Yvan, tu nous mets ça sur le site, s'il te plaît, l'école des Glénans.
Voilà.
Mais si, c'est l'école à faire.
Bah, ça, c'est intéressant parce que c'est un point en commun avec les Néo-Zélandais qui sont très penchés voile aussi.
Ouais. Hein? Ouais, bah, c'est... Oui, la voile est assez présente là-bas, c'est vrai. Et puis, ils aiment beaucoup l'eau qui tombe du ciel comme celle qui est dans la mer. Tant que c'est humide, ils sont bien chez eux après.
Bien. Donc c'est vrai que les Bretons ont un vrai point commun avec les Néo-Zélandais, avec la voile et puis avec le temps.
Voilà. Hein? Et la densité de population en dehors de Clent.
C'est
aussi.
Ça.
Et il y a des moutons en Bretagne?
Non, en plus des vaches et des cochons.
Ok, pas de moutons.
Non, pas trop.
Ça fait 10 minutes que j'essaie d'amener Rodolphe à parler de son expérience néo-zélandaise, mais il faut que vous le colliez, vous l'enfermiez dans ses origines. Il est bien plus que ça, Rodolphe. Rodolphe est un voyageur. Rodolphe est en devenir. Rodolphe est en train de devenir quelqu'un qui n'est plus tout à fait Rodolphe. Et je crois qu'il faut lui laisser sa chance. Rodolphe est un grand voyageur qui a traversé la planète. Rodolphe, qu'est-ce qui vous amène en Nouvelle-Zélande? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Que pensez-vous de la qualité de l'ennui en Nouvelle-Zélande, toutes ces choses?
Je vais essayer de tout répondre. Si jamais j'en manque, tu me rappelles. Mmh. Donc, je suis là depuis fin janvier, le 27 plus précisément. Je suis venu pour faire mon stage de master.
Master donc, en quoi?
Master, donc alors mon master, c'est...
Non, mon master...
Ingénierie de la formation, c'est pour devenir prof. Okay. Et c'est plus précisément professeur à l'étranger. Voilà. Et,
professeur de...
Mais là, ça précise pas spécialement, en fait. Et un peu tout, mais après, vu que je suis natif français, j'aurais énormément de facilité à trouver un poste de prof de français, langues étrangères. Donc après, moi, ce qui m'intéresserait le plus, ce serait d'être enseignant, donc à l'étranger, mais j'aimerais bien faire pour les sciences, dans les sciences. Voilà. Le français, pourquoi pas, mais je préfère les sciences, donc être enseignant de sciences, ça m'irait bien. Donc après, je ne le ferai pas forcément en français, mais ça m'intéresserait en tout cas.
Mais t'as fait des études scientifiques avant?
Ouais, oui, j'ai fait une licence de physique à Nantes. J'étais encore à Nantes à ce moment-là.
Ah, donc c'est quelqu'un de bien.
Oui, non, vous faisiez peur. D'abord, vous appreniez à devenir professeur et après...
Non, j'ai fait physique. J'ai eu mon bac scientifique. Après, j'ai fait 3 années de physique à l'université de Nantes. Et après, j'ai voulu changer parce que du coup, chercheur en physique, finalement, ça ne me tentait plus trop.
Il faut une sacrée couche.
Il faut en vouloir. Et du coup, je me suis dit, je voulais être enseignant. Du coup, j'avais commencé à faire un master pour être professeur des écoles, donc en primaire maternelle, donc de 3 ans à 9-10 ans en France. Mais fallait passer un concours et je suis un peu flemmard sur les bords, faut l'avouer. Et du coup, j'ai trouvé ce master, donc enseigner à l'étranger, où il n'y avait pas besoin de passer de concours. Et du coup, je me suis dit, j'ai bien envie de voyager, ça c'est sûr. Et puis, j'ai bien envie d'être enseignant aussi. Donc autant essayer de lier les deux en un seul. Et donc je suis parti sur ce master. Et donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour faire le stage qui est demandé pendant mon année.
Et si on est un de vos élèves, donc en dehors de la France, et qu'on suit vos cours de physique en français, est-ce que les notes comptent double?
Alors, est-ce que les cours seront en français? Si je les fais en physique, ça je sais pas, ça dépend aussi de...
Ce serait classe.
Ce que je trouve, ce serait sympa.
Ça serait monter le niveau.
Ce serait pour les courageux, ça.
Je sais pas trop si les deux écoles francophones à Auckland pourraient donner des cours de physique, parce que c'est des petits, non? C'est pas des...
Non, de culture physique.
Ah, de culture!
Après, je veux bien être...
Non, mais il y a pas mal de lycées français dans le monde entier.
Oui, non, bien sûr.
Beaucoup de lycées français, donc après... C'est vrai que ça m'intéressait aussi d'essayer de revenir
en Nouvelle-Zélande, c'est un système un peu différent. C'est que les profs de primaire, ils ont d'abord fait soit un BSc, soit un BA, donc un Bachelor of Arts. Et Il y en a pas beaucoup qui ont fait des BSC, donc Bachelor of Science.
C'est peut-être pareil partout pour les enseignants qui sont avec les plus jeunes. Parce que même en France, ceux qui viennent d'une filière scientifique pour faire professeur des écoles, c'est il y en a très très peu, et encore moins des hommes.
Voilà, là, donc ils sont assez demandés en général.
Depuis que je suis dans
on voit tout de suite pourquoi il a pris cette filière déjà.
Il y avait peut-être un peu de ça. Il y avait peu de ça. Mais il y avait, mais c'est vrai que depuis que je suis dans les études pour être enseignant. Et c'est les garçons me manquent parce que clairement ma première année on était 25 par classe, il n'y avait que 4 gars.
Ouais.
Et là cette année on n'est que 7 dans la classe, donc déjà on n'est pas beaucoup, mais je suis le seul gars. Donc au bout d'un moment, des fois quand je retrouve un garçon, je suis très content parce que.
Et tu fais ça à quelle université?
Vous tapez sur l'épaule, vous parlez rugby, vous grattez.
Rugby, pourquoi pas, mais je suis pas spécialiste du rugby, mais pourquoi pas.
Et une bonne équipe à Nantes?
De rugby?
Ouais. Parce que Toulouse, ils n'ont plus d'équipe. C'est
fini. Non, ouais. Je pense que la plus proche en équipe de rugby, ça doit être La Rochelle. La Rochelle, qui sont bien en rugby en France.
Ouais. Ils sont bons.
Ils sont
les
premiers, là. Ils sont dans.
Je sais pas si
ils sont peut-être. Quand j'étais...
Montpellier était premier.
Ouais, mais quand je suis parti, La Rochelle était deuxième. Au point de Montpellier.
Bon, encore une fois, si vous cessiez d'enfermer Rodolphe dans ses origines. Rodolphe, qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi la Nouvelle-Zélande?
Parce que c'était un pays qui m'intéressait beaucoup. Enfin, l'Océanie, c'est une partie du monde qui m'intéressait beaucoup.
Pourquoi?
Parce que.
Moi, ça m'intéresse absolument pas. Je suis là par hasard. Donc
mais je sais pas. Moi, c'était un pays qui me donnait envie. Je sais pas. Peut-être avec les photos paradisiaques qu'on peut voir sur Internet, ou en tant que Français, l'image qu'on s'en fait de la Nouvelle-Zélande ou même de l'Australie. Moi, ça me donnait envie d'y aller, un peu de voyager, ou même la culture maori qui m'intéresse beaucoup.
Et je suis ici depuis. Bientôt 13 ou 14 ans, quand je suis venu m'installer ici, la Nouvelle-Zélande était à peu près inconnue en France. Ce qu'on en savait, c'était le rugby, le Seigneur des Anneaux aussi, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Mais pour ce qui était des images paradisiaques dont vous parlez, elle m'était inconnue. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en France,
Les images paradisiaques, c'est vrai, mais en y repensant, mais je savais pas trop, mais même quand j'étais tout gamin, il y avait quelques pays qui me faisaient vraiment rêver. Genre, il y avait l'Australie, Nouvelle-Zélande ça aussi, mais je sais pas, c'est comme ça m'intéresse beaucoup. Et puis, du coup, il y a le rugby qu'on peut voir surtout au travers du rugby avec les All Blacks en France, qui est impressionnant avec leur AK, du coup, qui nous ramène à la culture maori. Ça me donnait bien envie.
Et depuis le mois de janvier, quelles sont tes impressions du pays?
Je vous vois, s'il te plaît.
Okay. Ce qu'on t'a pas dit, en fait, c'est que t'es venu pour faire un entretien, là, parce que t'as une prof d'université, et t'es un ancien prof de français, donc. Et puis Romain.
Quelqu'un qui a cheval sur les manières et qui vous voit.
Voilà.
Pauvre Rodolphe, il vient à la radio pour une fois, il se fait cuisiner.
Ça va pour l'instant, c'est pas trop désagréable. Du coup, pour l'instant, la Nouvelle-Zélande, le temps est agréable, en tout cas, moi, ça me va bien.
Et les gens?
Et les gens aussi. Non, mais j'ai trouvé les gens vachement sympas. Et puis même.
Ils sont gentils, ouais.
Quelque chose qui m'avait marqué un peu plus, c'est genre. Alors, c'est tout bête, mais c'est les voitures qui s'arrêtent pour te laisser passer quand t'es piéton. Genre, à part là où il y a les feux tricolores, où là, dans ce cas-là, si c'est vert, tu passes. Mais quand il n'y a pas de feu pour les piétons, moi, je trouve qu'ils s'arrêtent vachement rapidement pour te laisser passer. Je trouve ça hyper bien.
Ouais,
c'est tout petit truc, mais moi, dans les premiers jours, je me suis dit, c'est trop cool ça.
Tu as vu aussi à Queen Street, ce qui est impressionnant, c'est que les gens traversent en croisée.
Ouais, il n'y a pas ça en France, ouais.
Ouais.
Alors, il y a aussi un truc qui m'a vraiment plu, c'est de se balader pieds nus. Voilà, ça j'adore. Mais il y a le nombre de fois où je me suis retrouvé en plein Auckland, de la Queen Street, tout
pieds nus. Contact avec le bitume de nos ancêtres.
Ah, c'est ça, j'adore. Non, mais en plus, c'est un peu plus propre qu'en France, donc ça va. Mais du coup, je me retrouve assez souvent pieds nus. À part, il y a certains trottoirs qui font mal aux pieds, mais je me retrouve assez souvent pieds nus. Moi, j'aime bien. Ça me va bien.
Les gens sont propres ici. Hein. Les toilettes publiques sont propres en général.
Ça, c'est super bien.
Déjà, il y a des toilettes publiques.
Il y en a déjà. Et c'est pas payant.
Je voudrais alerter Rodolphe. Marcher pieds nus, bon, c'est rigolo, c'est exotique au bout de deux semaines. Mais après, ça donne des pieds de hobbit, mais littéralement, ça fait de la corne. Mais tu peux y mettre un clou, t'as pas mal.
Pour l'instant, je suis encore loin de ça.
Tu mets des chaussures, c'est ce que mes enfants prétendent.
En En tout cas, profites-en maintenant parce que le temps risque de tourner à l'hiver prochainement, je pense.
À l'automne.
J'ai pas très longtemps encore en plus parce que je repars le 20 avril parce que du coup, je vais finir mon master là.
Très bien.
Vous êtes en touriste alors ben on perd le temps avec vous.
Non mais okay. après j'ai bien envie de revenir, mais là du coup je serais resté quasiment 3 mois, ce qui est déjà pas mal parce qu'à la base dans le master on nous a dit bon bah le stage que vous avez c'est entre 1 et 2 mois, donc moi je reste 3 mois déjà, mais du coup j'ai bien envie d'essayer de revenir cette fois-ci pour travailler, donc rester un peu plus longtemps. Mais du coup, c'est un peu à contre-cœur que je me dis que déjà là, dans 3 semaines quasiment, c'est fini, faut que je rentre.
En tout cas, en Nouvelle-Zélande, ils cherchent des profs de français.
Ah ouais?
Ouais, ça devrait pas être trop difficile vu votre qualification d'obtenir un work holiday visa et après de rester.
Ça faut voir. Mais après, pareil, de ce que j'ai pu parler avec les enseignantes de l'école où je suis là pour mon stage, même si j'ai mon diplôme français, faut que je repasse un diplôme en Nouvelle-Zélande si je veux être prof.
Ouais, bon, enfin,
ça dépend si tu peux faire, enfin tu peux travailler comme ça s'ils ont besoin de toi, mais c'est au niveau des salaires en fait. C'est que si t'arrives pas à faire reconnaître ton salaire comme, enfin ton salaire, ton diplôme, alors t'es pas payé au...
Ok.
Si tu veux, ce qu'ils aiment bien en Nouvelle-Zélande, c'est le bénévolat. Ça marche très bien. C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
C'est faut le dire. Donc il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles. Là, t'en as 4 autour de la table, ce soir, par exemple.
Mais on fait ça pour s'amuser.
Ouais, ouais. Non, mais il y a beaucoup de bénévolats en Nouvelle-Zélande.
Surtout dans le domaine scolaire. Hein.
Mm-hmm. Ah ouais.
Toutes les mamans qui vont aider dans les écoles, c'est quand même du bénévolat.
Quand je vois rien qu'à l'école, il y en a pas mal qui viennent aider pour gérer 2-3 points qu'il y a à l'école.
Oui, mais ça va avec quelque chose d'anglo-saxon, de protestant, où chacun se prend en main, lié aussi, tu vois, à une histoire de pionnier encore toute fraîche, où on fait le pays à notre image et on met les mains dans le cambouis. Non, j'aime bien ça. C'est aux antipodes de ce qu'on connaît en France, où on se repose sur l'État, où l'État est responsable de tous nos maux. Eh bien non, ici,
on
prend notre avenir en main.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'administration en Nouvelle-Zélande est quand même moins compliquée qu'en France.
C'est pas difficile.
C'est pas très compliqué d'être moins compliqué qu'en France. Quand même.
Je crois que même la Belgique est moins compliquée que la France.
Ah bah non, mais ça
ne faut pas exagérer non plus.
Oui, arrêtez ce French bashing.
Mais alors... T'as touché à quelque chose. Tu parlais des Anglais qui sont protestants. Donc, la semaine prochaine, vendredi saint, qu'ils appellent ça Good Friday. Et pourquoi est-ce qu'ils appellent ça Good Friday? Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer là-dessus?
Appelez le
815-81-00 si quelqu'un sait pourquoi on appelle ça
Et vous n'avez pas le droit de consulter Wikipédia.
Donc, c'est Pâques. Qu'est-ce qui se passe à Pâques, Rodolphe? Toi, t'es le plus jeune.
Je l'ai su, mais j'ai oublié.
Que se passe-t-il à Pâques?
C'est pas la fin du carême?
C'est peut-être ça.
Ah, mais demande-moi pas. Hein.
Si, c'est la fin du carême, c'est 40 jours après carnaval, quoi. Mardi gras.
Ouais. Ah, c'est peut-être. Non, je sais pas.
Bah, c'est la grande fête chrétienne, quoi. C'est la résurrection.
Voilà. Enfin, la mort. En premier lieu, la mort et la résurrection le lundi, je pense.
C'est 4 jours plus tard.
Ouais, mais c'est aussi la fin du carême, quand même.
Oui, peut-être.
Oui, mais bien sûr, oui, d'accord.
Les 40 jours.
Donc, si vous voulez, la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale religion, c'est ça?
Et
c'est,
non, ça serait une excellente chose, parce que mes enfants vont bombarder de questions à ce sujet. Et Good Friday, c'est une excellente question. Et ça serait bien de rafraîchir nos mémoires de laïcard et athée.
Ouais, parce que moi ce matin, moi j'habite à Dominion Road et ce matin j'ai vu à la fenêtre toute une procession de gens qui allaient à l'église orthodoxe avec des accoutrements religieux, quoi. Et je me suis dit pourquoi aujourd'hui? Parce que les églises étaient pleines aujourd'hui. J'ai pas trop saisi pourquoi, parce que Pâques c'est la semaine prochaine. Donc si vous avez la réponse, hein, vous avez notre numéro de téléphone. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui étaient à l'église aujourd'hui.
Bon, en parlant de transcendance, je ne sais pas si la transition est bonne, mais je voulais glisser un mot sur le gendarme, Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié, donc qui faisait partie du planton de gendarmes qui étaient les premiers devant le supermarché, tenu en otage par un terroriste de l'État islamique, et qui s'est offert, qui s'est substitué à une otage. Alors cette manœuvre est classique dans la police, parce que mais là, vu le profil de l'assaillant, il savait qu'il courait à sa perte, et il s'agit d'un sacrifice. Donc il a sauvé une vie, mais je pense qu'il a sauvé bien plus que ça. Il a sauvé un espoir, enfin une sorte de foi dans l'homme. Et le fait que j'ai lu là qu'il était un catholique pratiquant, mais ça ne retire absolument rien à son geste d'attendre une récompense dans l'au-delà. N'ôte rien à la peine de se prendre une balle dans la gorge. C'est très beau.
Et on pense aussi à ce qui s'est passé à Montpellier, les étudiants qui se sont fait tabasser par...
Oui, ce n'est pas du tout sur le même niveau. Donc
c'est pas du tout sur le même
niveau. Tu vas garder ça, tu gardes ça après la chanson, mec.
Ah, mais on va écouter après, quoi comme chanson?
Déjeuner en paix.
Déjeuner en paix,
ouais.
De Staffan Nacher.
Ouais.
Hein,
celui qui habite
en Suisse,
dans la Nouvelle-Zélande du Pacifique Nord.
Ah bon, la Suisse.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'attend. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde. Sur la nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il a neigé? Une demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix.
bien vieilli. Hein.
Il en avait marre de sa nana ou déjeuner en paix, pourquoi?
Ou c'est elle qui en avait marre?
Non, c'est elle qui veut déjeuner en paix.
Ah.
Oui, c'est elle qui veut déjeuner en paix.
Ce sont des paroles de Jian, l'écrivain.
Philippe Jian.
Philippe Jian.
Celui qui a écrit 37-2,
ouais.
C'est ça
ouais.
D'ailleurs, c'est un bon film, quand même.
Oui, mais il a écrit le roman qui a été adapté par Benex, ouais. 37-2. C'est un très bon écrivain.
D'ailleurs, un film qui se déroule à Gruissant, je crois, dans le sud de la France.
J'y suis allé à Gruissant.
C'est là où ils font de la planche aussi.
Peut-être. Oui.
Le 4, Gruissant, c'est pas loin.
Ouais. Le Gruissant, c'est.
C'est maison sur pilotis. Hein, c'est ça.
Je sais pas, parce que j'étais juste dans un. Je faisais une colonie à ce moment-là, du coup, j'ai pas eu le temps de visiter vraiment Gruissant.
Très joli, Gruissant. Je recommande. Après avoir été passé dans la capitale bretonne de Nantes, pouvez-vous aller faire un tour à Gruissant? Évitez Paris.
L'animateur remarquable de radio, tu lances des trucs, tu sais pas où tu vas, t'as une connaissance très approximative du machin, et tu dis, si vous en savez plus que moi, appelez-moi au 815.
On a aucun appel pour l'instant, mais...
On sait jamais.
On les a perdus, là, entre la Bretagne, la Nouvelle-Zélande, les répliques de films de... Voilà, on a perdu nos auditeurs.
Est-ce que tu as senti la subtilité de ma transition? Il l'embête, elle dit « Oh, je voudrais déjeuner en paix ».
Ouais.
C'est un peu MeToo.
Voilà, c'est un peu MeToo.
Dans l'esprit, non?
Oui, donc moi je voulais parler de MeToo parce que ça arrive en Nouvelle-Zélande. Enfin, on sait bien que ça arrive en Nouvelle-Zélande, mais là il y a une journaliste, Alison Moe.
C'est un peu tard, non?
Qui a lancé début mars. Une enquête, enfin donc elle a lancé une enquête MeToo NZ comme elle appelle ça, et donc c'était en France
balance ton porc, c'est ça?
Ouais, en France, mais c'est et donc l'idée de MeToo, c'est pas spécialement de, en tout cas publiquement, c'est pas de nommer les gens, c'est pas de faire des procès d'intention, c'est toujours garder la présomption d'innocence, mais c'est de rassembler des témoignages. Et donc un des bénéfices, en parlant avec certains hommes de mon entourage, c'est que par exemple il y a, en lisant certaines images, certaines histoires de MeToo où on nomme pas en général, enfin la plupart celles que j'ai lues en tout cas ils n'ont pas, il y a des hommes qui se sont rendus compte de ce que c'était que ce harcèlement quotidien parfois de certaines, que certaines femmes ont vécu. Et bon, ça va de l'histoire du sifflement en rue.
Oui, enfin, c'est ça, tu dis harcèlement, de quelle expérience parle-t-on?
Se faire siffler en rue, certaines vont se dire, ben, pour finir, c'est quand même sympa.
Et j'en connais en Nouvelle-Zélande, je vais pas les citer. Voilà, c'est Blandine. Elle me disait que ce qui lui manquait de la France,
c'est d'être
ici invisible, de ne pas être déshabillé.
Mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui te dit t'es belle.
Vous êtes belle, c'est
bien. Vous êtes belle, tu vois. Mmh. Je veux dire, avec un certain respect. Mmh. Une certaine envie, mais qui ça va pas plus loin. Et le gars qui se dit qu'il a le droit de te mettre la main au cul.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été souligné. Je suis infiniment d'accord avec toi. Je pense que c'est ce que dit pas la. C'est un point sur lequel la tribune de Deneuve avait signé n'est pas clair. Je pense que oui, il y a. On devrait conserver un droit
à la drague,
d'opportuner, mais dans les mots, toujours dans les mots, et des mots respectueux.
Oui, et puis aussi accepter que quand quelqu'un te dise « Bon, ben écoute, c'est super bien que tu me trouves jolie, attractive et tout ce que tu veux, mais en fait, c'est pas réciproque, et maintenant ça suffit, et c'est là que ça doit s'arrêter. Mmh. » Et c'est là que ça s'arrête pas toujours. Et c'est là qu'est le problème, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que la campagne MeToo, le problème, c'est que, et ça a été déclenché par l'affaire Weinstein, c'est que comme c'est des choses qui se passent dans des sphères relativement privées en général, derrière des portes closes ou de manière assez discrète, et que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours envie d'exposer, enfin se dire que oui, on a été dans la chambre d'un gars Mais je veux dire, c'est pas parce que je vais dans la chambre d'un gars que j'ai envie de me faire sauter. Enfin, pardon.
C'est envoyer quelques signes tout de même.
Ouais, oui, quand même, à mon avis, oui.
Mais je veux dire, tu peux encore te faire draguer. Tu peux accepter de te faire draguer sans avoir envie de conclure. Mais quoi,
que l'homme montre des signes de frustration. Dans la colère, peut-être compris aussi.
Si tu vas dans un magasin.
Si tu prends cet exemple-là de la chambre.
Ouais, si tu finis dans la chambre, si tu t'es fait draguer et que tu finis dans la chambre, il y a quand même pareil.
Je suis désolée, quand on dit non, c'est non.
Certes. Mais qu'une femme, enfin, que j'invite une femme dans sa chambre et que là, je suis devant tes cheveux Monopoly, qu'elle m'abreuve d'insultes, soit.
D'accord.
Je le prendrai.
Mais t'es d'accord que bon, c'est.
Bien sûr, mais non, bien sûr. Annonce et non.
Il y a annonce et non. Quoi. Et donc, mais en fait, ce qui se passe aussi,
c'est maladroit tout de même, quand même. Tu dois le reconnaître.
Dans l'affaire Weinstein, on va pas rentrer dans le débat de l'affaire Weinstein, mais l'affaire Weinstein, ce qu'elle a montré, c'est que il y a plein de femmes à qui c'est arrivé, que la plupart n'en ont pas parlé, et quand il y en a une qui en a parlé, il y a 25 histoires qui sont sorties. Et parce que c'est typiquement le genre, c'est pas comme quand tu voles dans un magasin, c'est très facile de prouver, et le propriétaire du magasin, il va pas avoir honte. Parce qu'on va pas lui dire, ah ouais, mais ta devanture avait qu'à pas être aussi attractif, t'avais qu'à pas mettre des objets aussi jolis dans ta devanture, mettre des choses aussi chères, c'est normal qu'on les a volées. Or, assez régulièrement, quand une fille se fait agresser, on va dire, ah ouais, mais elle était jolie, ah ouais, mais elle portait une mini-jupe. Enfin, je veux dire, si on reconnaît le droit à la drague et au fait que c'est sympa d'être jolie et c'est sympa de se faire draguer, on a aussi le droit de porter des vêtements à friole. On va pas parce que sinon on retourne dans la burqa.
C'est la responsabilité des hommes. Si on veut voir des décolletés et des jupes courtes, ça veut dire qu'on doit se tenir, qu'on doit être impeccable.
Voilà. Et donc je veux dire, une mini-jupe, ce n'est pas une invitation à un viol. Voilà. Ouais. Mais c'est le message qu'ont certaines femmes quand elles essayent de porter plainte. Mmh. Et c'est, elle était jolie, elle avait 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas des excuses, quoi.
Il y avait une exposition récemment, je sais plus où, c'était à New York, je crois, qui montrait, qui avait placardé sur les murs des vêtements de victimes de viol où on se rendait compte que c'est pas de mini-jupe.
J'ai vu ce truc. Mais donc en fait l'idée qu'il y a derrière ce MeToo est un des problèmes qui se passe surtout dans les professions où il y a moins de femmes, c'est que donc les femmes en général n'en parlent pas, ne portent pas plainte, et donc et puis il y a des hommes dont beaucoup de gens savent qu'il y a des histoires pas clair, mais il n'y a jamais eu rien de prouvé. La présomption d'innocence est telle que tant que la personne ne sera pas jugée. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au lieu qu'il y ait des procès, ou au lieu qu'il y ait une action en justice, les hommes, on va leur dire, ils vont avoir, leur patron va leur dire gentiment de se calmer, et puis peut-être ils vont changer de boulot. Et puis ils vont recommencer ailleurs et ça continue ailleurs, et donc il y a des gars comme ça qui passent d'un boulot à l'autre, et donc c'est pour ça que des enquêtes comme MeToo, et c'est ce qu'elle a lancé là, Alison Moore en Nouvelle-Zélande, c'est pour un peu voir donc ils vont faire ils font ça très très sérieusement, parce que elles ont été attaquées parce que les gens ont dit ouais, ça va être le balance ton port, ça va être de la délation, et c'est pas du tout ça, c'est des... Pour l'instant, elle recueille des témoignages. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Elle travaille avec une équipe d'avocates, notamment parce que la diffamation, elles vont pas aller balancer ton porc, comme tu dis, Romain. Mais c'est essayer de mettre la lumière sur un problème de société qui fait que il y a des professions où il y a des tas de femmes, il y a des femmes qui partent. Notamment, on a eu le scandale récemment de la société de droit de Nouvelle-Zélande, où il y a des tas de femmes qui ont quitté la profession parce que c'est pas facile d'être une femme dans certaines professions. Il y a le même problème en sciences. Donc pour l'instant, on est il y a aussi un MeToo PhD où ben il y a énormément de femmes qui quittent parce qu'elles se font harceler par des chefs de labo. Il y a un cas récemment d'un ben justement un athéiste, donc Lawrence Cross, qui est déjà venu plusieurs fois. Il était là l'année passée au NZ Writer Festival. Il devait venir donner un séminaire au mois de mai et il viendra pas parce que il y a deux semaines, je pense, il y a eu un article comme quoi ça fait des années qu'il harcèle des femmes et qu'il profite de son statut. Là,
je pense que tu touches à un problème, c'est que tous les gens qui ont un statut important sont protégés. Oui. Que ça soit harcèlement de femmes ou pédophilie ou d'autres choses, ils seront tous protégés. Mais
c'est aussi parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des femmes ne vont pas porter plainte. Donc il y a des histoires isolées qui se répètent, des gens qui changent de boulot pour une raison. Il va changer de, et je connais des histoires où il y a des gars qui ont changé de boulot parce qu'on les a plus ou moins poussés dehors pour éviter un scandale, mais personne ne sait officiellement pourquoi est-ce qu'on leur a demandé.
Quels étaient leurs crimes, qu'avaient-ils fait?
Il y avait plusieurs personnes qui se plaignaient, mais ce sera
un harcèlement.
Mais ce sera un informal chat. Ce sera pas une procédure en justice. Donc il y a la présomption d'innocence.
Du point de vue d'un supérieur ou, enfin, c'est un supérieur hiérarchique.
Ce qui se passe par exemple en science, clairement, il y a des tas de femmes qui quittent la science, et puis 20 ans plus tard, on entend des histoires qui sortent qu'elles se faisaient harceler, donc elles sont parties, quoi. Parce que c'est tellement dur de porter plainte que la plupart s'en vont. Et puis elles se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas les seules.
Et en fait, il y a quand même des moyens de preuve, puisque maintenant, avec la technologie qu'on a, les téléphones portables, si ce n'est pas en filmant, ça peut être en enregistrant. Et tous les textos qu'on envoie ou les emails, il y a trace de ça. Donc
et puis les ressources humaines, même dans l'université, j'espère qu'il y a des lieux où
je pense que les choses sont en train de bouger, mais je pense qu'il y a certaines personnes, enfin le Lawrence Cross, il est déjà âgé, ça fait quelques années qu'il sévit quand même apparemment.
Mmh. Ouais, mais c'est parce que ils sont protégés à un certain niveau, ces gens-là. Autrement, ça peut pas être possible.
Ce qui se passe aussi, c'est que je pense que, par exemple, comme on voit avec la Law Society, c'est que c'est pas facile à gérer pour un directeur d'entreprise ou un directeur de bureau d'avocat. Enfin, c'est beaucoup plus difficile à gérer que quelqu'un qui a pris dans la caisse, quoi.
En tout cas, c'est une très bonne initiative de cette présentatrice de télé.
Ouais. C'est journaliste, hein, quand même.
Journaliste.
Une initiative, c'est plutôt un suivi.
En fait.
C'est la sauce NZL, mais c'est un phénomène planétaire.
Oui, dans son article, c'est ce qu'elle disait, c'est que elle espérait que quelqu'un d'autre le fasse en Nouvelle-Zélande parce qu'elle trouvait qu'il fallait que ça se fasse en Nouvelle-Zélande. Et bon,
il y a des articles qui ont été publiés récemment qu'on n'aurait jamais vu précédemment. Et parfois pas pour les bonnes raisons, pas pour le meilleur. Je pense à c'était à la Human Commission.
Human Rights Commission.
Un journaliste zélé a voulu faire un scandale à partir de ce qui me semble être vraiment pas grand-chose. Il s'agissait d'une soirée, donc des collègues qui sortent, qui vont dans un bar, ils finissent dans un club, il en reste deux, une stagiaire américaine et un jeune kiwi. Le jeune kiwi, là, l'étreint sur la piste de danse, et voilà que ça fait un scandale. Est-ce que ça doit figurer en première page d'un journal?
C'est pas du tout l'esprit de ce que Alison Moe a lancé avec d'autres journalistes néo-zélandaises et une équipe d'avocats. C'est l'idée, c'est de faire une enquête de fond de plusieurs mois sans doute, et dont on n'entendra plus parler. Enfin, on va pas en entendre parler avant un bout de temps, le temps qu'elles aient rassemblé assez de à ces témoignages, vérifier ces témoignages. Et,
Du coup, je pense que c'est ça qui est bien, c'est parce que l'envie, du coup, c'est d'aller contre le harcèlement comme ça, contre les femmes, ce qui est très bien, mais c'est aussi la manière dont elles veulent faire et dont elles l'amènent qui est vraiment bien par rapport. Parce que, par exemple, Balance ton porc en France, je pense que le but est bien. Mais après, il y a toujours la manière de le faire qui peut, du coup, le nuire. Parce que dans ce cas-là, par exemple, avec le hashtag balance ton porc, au bout d'un moment, tu te dis, bébé, est-ce qu'elle, elle n'est pas en train d'en rajouter juste pour en mettre plein la tronche à machin, alors que peut-être qu'il avait fait quelque chose de déplacé aussi. Ça, on ne peut pas le savoir, mais on peut aussi essayer d'y mettre à doute. Alors que là, sachant qu'il a fait toute une enquête, etc.,
oui.
Je pense que c'est la manière de le faire aussi, et sans mettre les personnes sur la sellette, sans le. Enfin.
Et l'idée ici, c'est que il y a une équipe aussi qui supporterait les éventuelles victimes à porter plainte, parce que c'est
soutiendrait,
pardon, parce que c'est un des crimes qui est le moins reporté. Enfin, je crois que c'est moins.
Et
10%.
J'ai entendu cet argument aussi parmi les féministes, qui est de regretter que de voir les femmes, donc c'est dans la bouche d'une féministe, comme des petites choses à protéger, et qu'une femme, contre le profil que tu décris dans une boîte, un dragueur très lourd, peuvent aussi se défendre, lever la voix, les remettre à leur place, et on peut voir les femmes comme ça.
Oui, mais je pense qu'il y a des tas de femmes qui arrivent à se défendre et tout, mais il y a quand même dans la société un problème, que il y a des tas de gens qui ne voient pas le problème.
Oui, mais enfin, on parle de tellement de choses, de tellement de scénarios, de niveaux de gravité différents. De femmes différentes, de cultures différentes. Enfin,
en tout cas, c'est
difficile, oui. C'est difficile de parler de tout ça.
Je crois que le problème.
Vraiment cerner le débat.
Ah, le problème, il est très différent d'un pays à l'autre. Déjà, par exemple, dans les pays, il y a des pays où les droits de la femme, c'est comme
excuse-moi, j'aurais pas dû parler de culture, parce que je veux pas rentrer là-dedans, et je pense que quelle que soit la culture, on doit se respecter de la même façon les uns les autres.
Mais c'est vrai que les femmes dans le monde, elles sont en général victimes de violences, d'abus psychologiques.
Ça continue. Et puis il y a quand même encore toute une série dans la société, considère assez régulièrement que c'est le rôle de la femme d'être à la maison, de s'occuper des enfants, par exemple.
Bah, traditionnellement, c'est quand même le rôle de la femme. La femme, c'est la créatrice.
Elle qui fait les enfants, mais je veux dire, c'est pas une raison que pendant 20 ans, elle doit être l'esclave à la maison, quoi.
Non, tout à fait.
Ce qui est dur.
Oui, mais donc il y a quand même. Et c'est pas non plus le. Enfin, il y a encore des gens qui considèrent plus ou moins qu'une fois qu'une femme se marie, ça devient la propriété de son mari.
Oui, tout à fait.
Et je veux dire, quelle que soit la culture, il y a encore des gens, enfin, qui le considèrent. Et le fait que il y a encore des gens qui considèrent que oui, dès qu'une femme met une mini jupe, eh ben, on a le droit de la toucher. On a le. Enfin, et non.
Une amie, une kiwi, me disait, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? La plupart des kiwis, des couples kiwis se sont rencontrés au travail, et les choses se sont concrétisées à la Christmas party. Et les mecs, maintenant, ils vont être terrifiés.
C'est là où il est le problème. Par exemple, l'histoire de la NZLO, c'est pas monsieur et madame 20 ans on est au début de notre... C'est mademoiselle de 20 ans qui n'ose pas dire non à monsieur de 50 ans qui est partenaire dans la boîte. C'est très différent. Moi aussi, je me suis fait draguer au boulot.
C'est l'affaire Weinstein, tout à fait.
Oui, moi, je me suis fait draguer au boulot. Il n'y a pas de problème. Il avait mon âge.
Pour abuser d'une femme, c'est répugnant. Ouais. Ou d'une femme ou d'un homme, parce que Rodolphe, tu es en position de minorité dans ton travail aussi. Alors, as-tu Balance ta truie, Rodolphe.
J'en ai pas encore.
Mais moi, je me fais pas draguer du tout au boulot. Je sais pas. Tu t'es fait draguer ? Moi, je me suis jamais fait draguer au boulot.
Moi, je travaille à deux bureaux de mon Jules, alors je pense que les gens, ils osent pas me draguer au boulot.
Mais moi, je me suis jamais
fait draguer. C'est pas des gros dragues.
Je me suis fait draguer, mais c'était il y a longtemps.
Je me suis fait draguer, j'en suis sûr, mais c'était si subtil que j'ai rien remarqué.
Mais je crois qu'ici, c'est surtout ce rapport de force. C'est l'idée que des gens, parce qu'ils sont en situation de pouvoir sur quelqu'un d'autre, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Au corps de cette personne.
Et ça doit changer. Si on parle d'un truc particulier,
c'est vraiment ça, ce MeToo. Et c'est ça qui fait qu'il y a des tas de femmes qui arrêtent leur carrière, et c'est là qu'est le problème. Et ça se passe dans les sociétés de droit, ça se passe dans l'académique, ça se passe au cinéma, ça se passe dans plein de sociétés. Et donc, c'est un des problèmes. On parle de différence de salaire homme-femme. Mais oui. Parce qu'il y a ce problème-là, quoi. Il y a ce rapport de force que certains gars ont toujours dans leur tête qu'ils ont le droit, quoi. Que c'est le droit de cuissage, ou je sais pas comment on l'appelle. Et donc, tant que ce sera là, et donc c'est bien de pouvoir que quelqu'un fasse une enquête en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays et dans d'autres domaines, comme il y a MeToo PhD, pour mettre la lumière sur ce genre d'histoire. Je veux dire qu'il y a des directeurs de thèse de 40, 50, 60 ans foutent en l'air des carrières de jeunes scientifiques de 25 ans. C'est pas normal. Ça arrive encore.
Donc, merci Fred pour ça. Et faites un tour sur son site, Alison Moore.
Donc, il y a un article dans Stuff où elle met son... Mais je mettrai ça sur le blog. Donc, elle met sa page Facebook. Il y a un numéro de téléphone dédié.
Très bien.
Je ne l'ai pas encore sous la main, mais c'est 027 quelque chose. Mais je le mettrai sur le blog. Et donc, elle récolte pour l'instant. Elles sont plusieurs à récolter les témoignages.
Et c'est vrai, on doit respecter les femmes.
Tu parles comme de petits mammifères mignons.
Mais t'es gentil, mais en fait là.
Arrêtez de manger des femmes.
Le problème, il vient de là. Il y a pas de respect dans ces cas-là. Les femmes se font harceler parce qu'il y a aucun respect.
Je pense qu'il y en a. C'est pas non plus une majorité des hommes, mais c'est quelques personnes qui décident que ils ont le droit.
Je vais rééquilibrer le truc, machin. Déjà, en vous disant un chaleureux au revoir. Merci Fred d'avoir apporté ce sujet. Merci Rodolphe pour tes premiers pas. Ne retourne jamais en France. Jamais, ce serait l'erreur.
Tu peux retourner en Bretagne. Hein. C'est pas
ça.
La France.
Ouais, c'est pas vraiment la France. Mais je suis pas vraiment en Bretagne non plus, parce que non, est-ce que ça l'est pas, breton?
Alors ça, c'est le débat de ce soir aussi. Hein.
Voilà, deux débats ce soir.
Ouais, je préfère ne pas me positionner par rapport à ce débat.
Moi, je me suis déjà positionné. Je suis jamais à Nantes, mais je suis sûr que c'est la capitale de la Bretagne. Ouais. C'est la Bretagne sud.
Ils vont être royalistes.
C'est la Bretagne de l'hémisphère sud.
Ouais.
On m'a fait rater ma chanson. Bon, on écoute une chanson que j'adore, et ça nous remettra tous en paix. C'est Désir de Laurent Voulzy. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée.
situation. Des rock et du sport.